J'ai commencé à travailler donc sur la marine de guerre, marine royale. Et déjà donc en France et en Europe, grâce aux travaux donc de nombreux chercheurs, nous commençons à bien connaître donc cette marine, comment ces bâtiments étaient construits, quelles étaient leurs influences, notamment en France, influence hollandaise, puis ensuite donc développement d'une technique propre à la construction navale. Et de même, nous avons quand même plusieurs sites archéologiques qui nous ont livré des vestiges donc de ces grands vaisseaux. On connaît naturellement les vestiges donc la bataille de la Hougue hein, qui sont présentés au musée naval de Tatiou, ou encore mieux donc l'épave du Vasa, en fait où on a le vaisseau complet que l'on peut visiter actuellement, donc un vaisseau donc de l'époque de Louis XIII, un début du XVIIe siècle. Mais par contre, la connaissance de notre petite marine n'a pas suivi les mêmes progrès. Déjà parce qu'en fait, ce sont des épaves qui sont beaucoup plus difficiles à trouver, et surtout, en fait, elles n'ont pas bénéficié des mêmes attentions que son homologue royal. Nous n'avons pas de traité de construction, tout simplement parce que les constructeurs des chantiers privés, soit ils ne savaient pas écrire, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai quand même rencontré plusieurs constructeurs pour Honfleur qui savaient parfaitement signer, qui savent, qui sont lettrés, qui savent écrire, qui font des devis de construction. Mais tout simplement parce qu'en fait, ce n'est absolument pas dans leur préoccupation. Ce sont des entrepreneurs, ils s'occupent plutôt de faire tourner leur entreprise. Un trait de construction navale, c'est plutôt en fait l'affaire soit d'officiers, soit plus tard au XVIIIe siècle, de constructeurs du roi qui auront le temps de faire ce genre d'ouvrage. Donc il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle. Hein, où on trouve quelques informations dans le répertoire de construction du constructeur royal Pierre Mourinho, qui travaillait à l'arsenal de Rochefort, ou de l'architecture navalis hein, du constructeur suédois Frédéric Henrik af Chapman, publié en 1668, mais qui présente donc de nombreux plans avec donc des descriptions, mais essentiellement pour des navires donc de l'Europe du Nord, navires hollandais, navires suédois, navires anglais, et en fait on a très très peu de choses sur la marine française. Donc cette petite marine fut pourtant un instrument essentiel du commerce maritime français, ayant grandement participé à l'enrichissement du pays. Mais malheureusement, on connaît beaucoup mieux les navires antiques que cette marine. On serait bien en peine actuellement de demander à quelqu'un de faire un dessin, expliquer comment c'était construit et quelle forme ils avaient. Donc en fait, cette étude que je suis en train de mener actuellement s'intéresse plus particulièrement à la construction navale en Normandie, en prenant l'exemple d'un port, Honfleur, depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, pour essayer donc de voir comment, en fait, les types de navires que je vois apparaître au fur et à mesure de cette étude ont pu évoluer ou disparaître, voir si d'autres types sont apparus, et donc de mieux comprendre donc, comment, en fait, les chantiers de construction navale se sont adaptés, en fait, à l'évolution du commerce et de l'économie française. Donc, cette étude, en fait, elle prend en compte naturellement, l'aspect technique des navires, leurs dimensions, la disposition des ponts, des gaillards, la charpente, les essences employées et la mise en œuvre des bois. Là aussi, en fait, l'étude des bois est importante parce que, donc, contrairement aux arsenaux royaux, qui eux prenaient les bois où ils le voulaient, hein, il suffisait en fait que le constructeur arrive dans une propriété privée, il dise oh, je prends cet arbre, cet arbre, cet arbre. Il était martelé et c'était fini, on ne pouvait plus rien dire. Et sur des privés, par contre, ils se trouvaient en fait dans un circuit commercial classique et en fait c'était au plus offrant. Ils achetaient les bois qu'ils pouvaient trouver, qui étaient disponibles pour eux, que ce n'était pas du tout la même chose. Et on s'intéresse également naturellement aux lieux de construction. Donc certains navires destinés à des armateurs honfleurés étaient construits dans des chantiers extérieurs, pas seulement Honfleur, mais également des chantiers qui sont construits dans l'estuaire de la Seine. Et à l'inverse, des chantiers honfleurés construisaient aussi pour des clients extérieurs provenant d'autres ports tels que Rouen, Le Havre ou Quillebeuf. J'en ai même un brave Breton qui arrive là pour faire construire un bateau flambard. Il vient de Tréguier, le gars. Mais je pense que c'est plutôt en fait parce qu'il avait dû perdre son annexe et il en faisait faire à notre vitesse. Donc, les constructeurs seront également étudiés en liaison avec donc des généalogistes pour mieux cerner en fait leur milieu social, quelle était donc également leur place au sein donc de la ville et de la commune, et également comment ces constructeurs se sont perpétués dans le temps. Est-ce qu'il y avait comme pour la construction navale royale, est-ce qu'il y avait donc des filiations de constructeurs, des liens entre différentes familles de constructeurs? Ça aussi serait intéressant de le voir dans le cadre en fait, donc, de la collection privée pour voir un petit peu comment en fait, se perpétuer les traditions et les compétences de ces constructeurs. Alors tout naturellement, donc, cette étude donc, n'est pas partie donc, de rien. Déjà en Normandie, à partir donc, du milieu du 19e siècle, beaucoup de chercheurs ont commencé déjà à travailler sur le sujet. Et je dirais que la Normandie a été dans ce domaine un précurseur. On peut citer notamment Charles de Beaurepaire, qui est donc un ancien chartiste et qui donc était archiviste paléographe aux archives départementales de Seine-Maritime, hein, membre fondateur de la Société d'histoire de Normandie. D'autres ouvrages, en fait, il publia donc déjà une belle étude donc, sur Rouen, donc, de la vicomté de l'eau de Rouen et ses coutumes au XIIIe et au XIVe siècle. Surtout, donc, un très gros article, en fait, une publication d'un mémoire du XVIIe siècle concernant la marine de commerce du Havre, hein, état des vaisseaux, eux, gribanes, barques et bateaux du port du Havre, transmis à Colbert en 1664, qui est en fait un mémoire qui a servi donc pour la grande enquête de Colbert, qui se trouve conservée donc à la BNF actuellement, dans lequel on retrouve notamment les dimensions des bâtiments, mais également le nom des constructeurs, le nom de leurs propriétaires, le nom du capitaine, parfois l'armement ou l'armement éventuel, quelques petites informations sur les principales routes commerciales qu'ils fréquentent, ainsi que donc l'âge du navire. Autre grand chercheur également, donc Charles Briard, hein, qui publia naturellement le compte du Clos des Galets de Rouen, qui est en fait toujours une source importante pour la connaissance de la construction navale médiévale, hein, parce qu'en fait ce Clos des Galets, c'est notre premier arsenal royal, le premier arsenal militaire, hein, où à partir de ce compte, en fait, on peut voir donc comment étaient construits les navires, à la fois les navires normands, mais également des navires méditerranéens, parce qu'en fait, le roi avait fait venir à Rouen des constructeurs qui venaient de Méditerranée, de Catalogne ou de Gênes, pour construire des galères, qui étaient considérées comme en fait le seul véritable navire de guerre. À côté de ça, travaillaient en fait des constructeurs normands, qui construisaient des barges, qui construisaient des petites embarcations à clin, donc bien attestées. Et donc, on peut voir donc, à travers ces comptes, les différents outils employés, les différentes essences de bois employées, la manière de comment ces navires peuvent être construits, et qu'en fait, un outil extrêmement intéressant pour les chercheurs. Notre ouvrage également très intéressant, en fait, qui m'a bien servi, qui en fait a été même un point de départ, c'est « Documents relatifs à la marine normande et à ses armements au XVIe et XVIIe siècle, pour le Canada, l'Afrique, les Antilles et le Brésil ». Recueilli et noté par Charles Briard. Alors là, en fait, Charles Briard en fait, a eu une grande aide. C'est qu'un de ses parents, Paul Briard, était notaire à Honfleur, donc de 1870 à 1908. Pardon. Et que maintenant, donc, en fait, toutes ces archives notariées sont conservées aux archives départementales. Et donc, c'est une de mes sources essentielles. On en reparle tout à l'heure. Et il commença donc à partir de là donc, à publier donc, plusieurs contrats, deux contrats de construction, plusieurs contrats d'affrètement, des assurances, des contrats de location également. Donc, à l'époque, cette archive donc, était conservée chez son parent, donc dans les archives notariales, n'était pas encore versée aux archives départementales. Elles ne seront versées qu'en 1967 uniquement. Autre document très important, qui n'est pas très connu, en fait, c'est en fait une étude qui avait été commandée par l'Académie de marine et qui a été publiée en 1939. Et qui, en fait, c'est une étude qui avait pour but donc, de faire connaître l'histoire de la construction navale en France sous l'Ancien Régime. Il devait travailler à la fois sur le Ponant, mais également sur le Levant. Malheureusement, la guerre a interrompu cette commande. Et en fait, un seul ouvrage est sorti, hein, qui s'appelle donc, « Le corporatisme ancien de la construction navale en France ». Donc, un ouvrage à quatre mains, hein. Albert Vintras, qui est archiviste donc, de la ville d'Honfleur, Jean Bance, Georges Desclombes et Pierre Abat. Et dans cet ouvrage, donc, il y a un très, très gros article concernant en fait Honfleur et les constructeurs honfleurés essentiellement du XVIIe et XVIIIe siècle, même période révolutionnaire également, 19e, avec donc une très bonne illustration donc des corporations, donc des métiers, la construction navale, mais également du calfa, les cordiers. Et en annexe, donc, il publie même quelques documents de construction navale, tirés par contre, pas des archives notariées, mais d'une autre source essentielle qui concerne en fait les sources de l'amirauté d'Honfleur. dans lequel plusieurs documents concernant la construction navale ont été conservés et qui sont également aux archives départementales actuellement. Et en dernier lieu, naturellement, on ne pouvait pas passer par lui, c'est l'abbé Albert Antiome, qui est également un très grand historien concernant en fait la construction navale en Normandie, hein, avec notamment son ouvrage Le navire, sa construction en France, principalement chez les Normands, dans lequel donc, il prend pour source dont récemment Jal, entre autres choses, mais également d'autres historiens comme Bréard. Et également, il a fait donc, de très bonnes recherches dans les archives notariées du Havre et de Rouen, essentiellement du Havre, ainsi que dans les archives d'Amirauté du Havre, où il a pu retrouver plusieurs contrats de construction qu'il a partiellement publiés dans ses ouvrages. Et je terminerai naturellement par André, notre maître à tous, au CRHQ surtout, Michel Mollat du Jourdain, dont on poursuit l'œuvre avec le nouveau glossaire nautique JAL, hein, lui qui fut le fondateur de ce projet. On peut citer donc le commerce maritime normand à la fin du Moyen-Âge, qui fut sa grande thèse concernant donc le commerce maritime et également donc l'époque médiévale. Et surtout, donc, il fut également l'instigateur donc, d'une série de colloques d'histoire maritime, hein, les fameux colloques d'histoire maritime de l'école pratique, le colloque pratique des études, hein, avec entre autres le navire et l'économie maritime du 15e et 18e siècle, ou encore le navire et l'économie maritime du Moyen-Âge au 18e siècle en Méditerranée, donc, ou les sources de l'histoire maritime en Europe du Moyen-Âge au 18e siècle. Ce n'est que quelques titres que je vous présente là. Et ce fut en fait toute une série de colloques très très importants qui ont mis sur les rails en fait cette nouvelle discipline. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait innovant, qui est en fait l'histoire maritime en France et en Europe. Donc je terminerai quand même cette présentation par la thèse d'Anne Girardeau, étudiante de l'École des Chartes, et qui soutient sa thèse en 2004, une thèse intitulée « La construction navale, maritime et fluviale dans l'estuaire de la Seine pour la seconde moitié du XVIe siècle ». Une thèse malheureusement qui n'a jamais été publiée et qui prend pour référence en fait des documents de tabellonnage du Havre et de Rouen. Mais alors, heureusement pour nous, elle a quand même publié quelques articles en citant ces sources qui nous permettent également donc, de pouvoir travailler. La première, donc, les différentes sources écrites. Donc, je commencerai par une source imprimée importante. C'est le fameux hydrographie, quand on a la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, donc du père Georges Fournier, un Normand, donc, qui est né à Caen, un jésuite. Donc cet ouvrage donc, a un caractère encyclopédique, parce qu'il parle de la navigation, il parle du commerce, il parle également donc, de la vie à bord, des équipages, de l'artillerie. Évidemment, père jésuite, il parle aussi de la dévotion, des gens de mer. Donc tout un chapitre très édifiant pour l'âme. Et cet ouvrage a longtemps été considéré comme la principale source historique sur la marine française sous le règne de Louis XIII. Et dans le livre premier consacré à l'architecture navale, il décrit des proportions des différents navires de guerre et de commerce, quelques règles de conception pour les formes de carène. Il fournit également des informations sur la mâture, la voilure, le gréement, l'artillerie, l'armement de ces navires. Il explique notamment comment à Dieppe on armait les navires pour le Canada, ainsi qu'à Honfleur. Mais cet ouvrage est également connu par les spécialistes de la construction navale royale par sa description quelque peu douteuse, mais maintenant, avec les sources que l'on a, on se rend compte qu'il y avait des imperfections et des imprécisions. Donc, sa description du vaisseau La Couronne, qui est considéré en fait comme le premier grand vaisseau français de 2000 tonneaux, construit également par un Normand, hein, un homme peu connu, le maître charpentier d'Épois, Charles Morieux, qui était en fait un charpentier entretenu par le roi. À la page 38 en fait, donc, de cette hydrographie, on trouve entre autres un devis de construction pour un navire de 280 tonneaux. Donc, armé de 24 canons. Alors, ce bâtiment a une quille en hêtre, ainsi que le bordage des fonds de la coque, qui est également en hêtre. Alors, cette particularité me fait penser, en fait, que nous avions affaire, en fait, à un navire normand, construit en Normandie, en raison, en fait, de cette essence qui est pratiquement une peculiarité que j'ai trouvée dans pratiquement tous les contrats de construction du Honfleur. La fond est toujours construit en hêtre. Contrairement aux vaisseaux royaux, ils mettent que du chêne. Alors, toutefois, les informations connues de cet ouvrage sont de seconde main. Donc, en fait, il a utilisé différentes sources, à la fois donc, des sources d'archives, visuellement, donc, il lui a entre les mains quelques devis de construction, mais également, il s'est fondé sur des ouvrages italiens, également hollandais, sans toujours citer notamment toutes ces sources. Alors, pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus efficace et aller plus en avant dans la connaissance de cette construction, il fallait se retourner vers les archives. Et pour la période antérieure au règne de Louis XIV, il ne nous reste essentiellement que les archives notariées, qui sont les principales sources concernant la construction navale en Honfleur, mais également pour le reste donc de la Normandie. Alors, ces archives sont extrêmement riches. Elles nous renseignent sur les activités maritimes de ce port, grâce à des contrats d'affrètement, de tiercement, des contrats de location de navires, d'achat et de vente de parts de navires, de navires complets. Et les marchés de construction sont naturellement la principale source concernant la construction navale. Les marchés de radeaux et de réparation sont également importants, car ils apportent des détails complémentaires sur les aménagements et les techniques d'assemblage des pièces de charpente ainsi que le chevillage. Par contre, certains contrats de vente de navires ou de parts de navires, ainsi que des contrats de location, vont nous fournir au contraire des informations complémentaires sur la voilure. Quelquefois, ils vont nous décrire la voilure et le gréement, ainsi que quelques équipements de bord, le nombre d'avirons, les gaffes, on a même des cornets épicés, enfin fait, différentes choses qui nous approchent un peu plus sur la vie à bord de ces bâtiments pour une époque ancienne. Alors donc là, je vous présente le résultat de travaux entre 1574 et 1645. Donc j'ai pu retrouver 51 contrats de construction et 14 contrats de radoub pour cette période. Alors la contenu des contrats est très variable. Hein. On peut aller d'un seul folio pour les plus petits, comme par exemple les bateaux flambards, jusqu'à 7 folios pour des navires de haute mer à deux ponts. Concernant la description du navire, la longueur du texte est aussi très variable. Ça peut aller de 6 lignes à 4 folios. Donc on a quelquefois des documents qui sont très très précis. Alors de manière générale, ces contrats se composent de trois grandes parties. La première partie en haut vous donne la date et les lieux de rédaction du contrat, ainsi que donc le nom des notaires, les tabellions. Ensuite, on a la présentation des différentes parties, avec leur nom, ainsi que donc que leur domicile. Ensuite, la plus grande partie concerne la description du navire en lui-même, avec ses dimensions et la charpente. Et en dernière partie, en fait, qui parfois est assez longue, ce sont les aspects juridiques et financiers, ainsi que les engagements respectifs des différentes parties entre elles. Et là, c'est des documents qui sont très détaillés, parce qu'il ne s'agit pas de faire d'un pair. Il faut exactement savoir ce que fait chacun et ce que doit payer chacun. Ces documents nous donnent également des informations intéressantes, c'est qu'en fait, chaque contrat va indiquer le type de navire. On ne peut pas dire en général c'est un navire, donc il va préciser si c'est un bateau flambard, une roberge. Donc on aura plusieurs types de navires. On va rencontrer des roberges, notamment une roberge de 80 tonneaux du XVIe siècle. On trouve plusieurs bateaux flambards du XVIe et XVIIe siècle. Différents bateaux, donc qui sont un type particulier donc de cabotage et la pêche. Des barques. On trouve aussi des E. Alors le E, en fait, ce n'est pas un navire originaire de Normandie, c'est un navire hollandais, mais qui a été très vite adopté par les constructeurs normands, qui l'ont trouvé très pratique pour la navigation donc dans les estuaires de la Seine et le long des côtes. Bâtiment à fond plat et pouvant naviguer en fait dans des eaux plus profondes. Mais malheureusement, il rencontre dans les rapports de mer nombre de naufrages de ces navires. Il semblerait qu'ils n'étaient pas construits très solidement. Et naturellement, on retrouve dans des grands navires, des navires à deux ponts, navires de haute mer, essentiellement utilisés pour le commerce à Terre-Neuve, pour la pêche à Terre-Neuve, pardon, et également pour le commerce au Canada. Et j'ai même retrouvé, donc, à l'époque de Louis XIII, une frégate royale. On sait notamment que le Honfleur a construit donc ces fameuses hirondelles et les fameux dragons, donc des navires de garde-côte pour le roi sous le règne de Louis XIII. Juste une présentation, on ne va pas détailler le contrat, donc j'ai transcrit un des contrats de construction. C'est en fait les retranscriptions que je fais pour chacun des documents que je trouve. Alors au départ, on retrouve naturellement la date de rédaction donc, du contrat, le lieu du contrat avec donc, le nom des tabellions et le lieu, donc à l'inclusion, en fait, il s'agit d'une auberge à l'enseigne des Trois Évêques, à Honfleur. Ensuite, on passe en fait à la présentation des différentes parties. Donc, on a le maître charpentier, donc on précise bourgeois ou pas bourgeois. Donc, bien souvent, en fait, on a beaucoup de constructeurs qui sont quand même bourgeois en fleurs. On sent bien que ce sont des notables. Les constructeurs sont des gens qui ont une certaine aisance. On va ensuite avoir donc les différents clients. Donc, pour un grand navire, on va avoir même plusieurs clients. Là, on a notamment le proue-champ bourgeois du Honfleur, ou Guillaume Canave, capitaine de navire. Les capitaines de navire, généralement, aussi étaient des bons clients pour les charpentiers, où ils faisaient construire donc des navires ou des barques pour eux-mêmes ou même avec une association avec d'autres bourgeois marchands. Et ensuite, après, on va avoir tout le détail du bâtiment, avec d'une part, d'abord, les principales dimensions du navire, les longueurs, les largeurs, les hauteurs, donc le creux, hauteur d'entrepôt qui viendra ensuite. Et après, on va détailler la charpente, parce que donc c'est quand même un élément essentiel, c'est ce qui va faire la résistance à la suite du navire. Ils vont détailler essentiellement tous les éléments de charpente de la coque, avec leurs dimensions. Alors, ces documents, en fait, la grande complexité de ces documents, c'est quelquefois des termes techniques qui sont très différents des termes que l'on connaît pour le XVIIIe, et même pour la fin du XVIIe siècle. On a certains termes qui, en fait, sont, je dirais, de l'époque médiévale pour certains encore. Bon, on parle du tiac, ça on connaît, hein. Mais on va voir, par exemple, pour des termes comme l'auge de pompe, qui est en fait un bout qui est creusé, comme une auge, hein, et qui va servir à évacuer l'eau de la pompe à l'extérieur du navire. Donc c'est un terme en fait, qui n'est pas un terme de construction navale, c'est un terme terrestre, mais qui est appliqué dans un contexte maritime. Et cela, on le retrouve dans beaucoup de contrats. On se rend compte qu'en fait, que les mots qui viennent de la mer, en fait, ils ne viennent pas de la mer. Bien souvent, ce sont des termes de la vie courante qui sont ensuite transposés dans un milieu maritime et qui deviennent, après coup, un terme naturellement de maritime de construction navale. Donc, vous voyez un petit peu donc, les différents détails donc, des baux, de la quille. On va détailler ensuite donc, également les écoutilles. On aura donc présenté deux grandes. Ils précisent comment elles sont fermées donc, par des barres de fer. Précise également comment l'arrière est assemblé, avec les barres d'arcasse et les courbes d'arcasse. Également comment la charpente des ponts est réalisée, avec les épontilles, avec les baux, les serboquières. On a l'hauteur des ponts. La hauteur des ponts, quand même, quelque chose d'assez faible. Hein. Généralement, on a une hauteur d'entrepont qui avoisine les 4 pieds. Donc, on est environ à 1,30 m. On est loin donc, des entrepôts de vaisseaux. Hein. On a 1,50 m, 1,60 m et même plus pour les très grands vaisseaux. Là, en fait, on se rend compte que c'est des lieux, en fait, soit de stockage de marchandises ou juste un lieu de couchage pour l'équipage. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de tenir debout. Hein. On circule accroupi dans ces entrepôts. Même la chambre arrière du capitaine a à peine 1,40 m, même 1,30 m, juste de quoi s'asseoir, quoi, tout simplement. Donc, en fait, on se rend compte que c'est des bâtiments qui sont très inconfortables. Hein. Ils sont très exigus. Tout est fait pour le transport des marchandises. Le confort des hommes, on ne s'en préoccupe guère. Donc, on a des termes particuliers, comme par exemple, on voit le Saint-Aubinet. Alors, au départ, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce Saint-Aubinet. En fait, c'est un ancien terme qui désigne le gaillard d'avant, tout simplement. Alors, par contre, comme c'est un bâtiment important, ben, c'est un navire en fait, qui va avoir un éperon, comme pour un vaisseau. Il va retrouver une galerie à l'arrière. On va retrouver des gorges, des herpes. En fait, ces navires sont construits comme des petits vaisseaux en miniature, avec les mêmes équipements que ces bâtiments-là. Il y a même au-dessus du pont ce que l'on appelle à l'époque un pont volant. Donc, ils sont en fait une superstructure en caillebotis, en grillage de bois, qui était destinée à protéger contre un abordage éventuel d'un navire ennemi. Donc, c'est des superstructures qui sont faites pour des navires de guerre à l'origine. Et on voit en fait que ces bâtiments-là, ils se prémissent également contre le combat. Bien souvent, ce sont des navires qui ont quelques canons et également donc, ces dispositifs pour se prémunir d'un abordage. Donc, on voit bien en fait que c'est des bâtiments qui sont construits dans une période en fait, donc, de grande précarité. Il n'y a aucune police des mers et chaque navire se défend comme il peut contre les pirates environnants. Donc, un des plus célèbres, naturellement, est le père d'Abraham Buchan, qui pratiquait sa coupable activité sur les côtes de la Manche sans vergogne. Alors, on parle notamment au bordage des fonds, les précintes. Après, on a les équipements. Hein. Chaque contrat, par contre, est prévu avec l'annexe. On ne construisera pas l'annexe à bord. L'annexe est toujours prévue avec le contrat de construction. C'est systématique dans tous ces documents. Soit il parle de bateau flambard, soit un bateau de nef, pour les plus grands navires, une chaloupe en fait. Ensuite, donc, on va attaquer la partie juridique en précisant d'une part la date de mise à l'eau du navire. Alors généralement, c'est une date de mise à l'eau qui est choisie en fonction des fêtes. On ne va pas dire, voilà, ce sera pour le 25 novembre ou le 13 août. On va dire, on va prendre des fêtes connues, la Saint-Michel, la Saint-Jean, pour Honfleur, on va prendre aussi la Sainte-Catherine. Donc, des dates qui sont bien spécifiques. Et toujours, alors je ne sais pas, c'est une formule rituelle ou quoi, et précise à chaque fois, le navire sera mis à l'eau, le gouvernail pendu au derrière. C'est systématique sur tous les contrats. Et ensuite, on va passer donc à la partie essentielle, c'est le prix. combien ça coûte et comment en fait chacune des parties va payer ce navire. Donc là, en fait, c'est un contrat assez compliqué parce qu'en fait, certains personnages doivent de l'argent à d'autres. Donc, ils retirent de l'argent du prix pour le donner à d'autres personnes. Donc là, en fait, on a toute une partie juridique qui est extrêmement complexe et qui montre un peu donc, la complexité et la précision de chacun de ces documents au niveau donc, du paiement. On sent bien que au moins le paiement est une chose au moins aussi essentielle que l'achat du navire, sinon plus. Et donc, on va terminer ensuite donc, le contrat, naturellement, par une chose intéressante, ce sont en fait les termes de paiement. Alors, les termes de paiement sont extrêmement intéressants, d'une part pour voir comment le bâtiment a été payé, mais également, c'est un aspect intéressant d'un point de vue technique. C'est que, en fait, chaque terme de paiement correspondra en fait à une étape importante dans la construction du navire. Donc, on va avoir une partie, donc naturellement, qui est payée, c'est souvent à la signature. Ensuite, on a une autre partie qui va être payée lorsque le navire sera en teurbois, donc en fait en bois tor, ce qui veut dire en fait qu'on a monté la charpente. Ensuite, une autre partie lorsqu'il sera bordé, et une autre partie lorsqu'il sera mis à l'eau. Donc en fait, on voit bien comment ce bâtiment était construit. Donc il n'était pas construit, comme certains le pensent, un peu à la manière hollandaise, où on va d'abord commencer à mettre les fonds en bordage et ensuite insérer la membrure. Mais en fait, il est construit comme on construit un bateau actuellement. En fait, on met en place toute la charpente et après on met le bordage et on le termine pour le mettre à l'eau ensuite. Donc c'est quand même une construction qui est très moderne, même pour le début du XVIIe siècle. Et on termine naturellement sur la signature du contrat avec donc la présence en fait également donc des témoins, souvent deux témoins qui signent avec donc toutes les parties. Alors, autre document donc, que je vous mentionnais, en fait, ce sont en fait les contrats de vente. Alors ces contrats de vente en fait sont beaucoup moins détaillés en général. Il précise parfois une petite description aussi pour un petit bâtiment, un bateau, un simple bateau de 10 tonneaux. Donc il va préciser par exemple que le bateau a deux mâts. Il va avoir au grand mât deux palans, deux haubans. Il va préciser en fait le nombre de haubans, le nombre d'étés pour chaque mât, le nombre d'ancres, préciser le nombre d'avirons et puis quelques éléments également de l'accastillage. Mais c'est pas toujours très exhaustif, mais ça donne déjà quelques indications pour des périodes du XVIe et du début du XVIIe siècle. On est quand même content de les avoir. Malheureusement, on n'a pas les inventaires. Et mais là, quelquefois, c'est même plus succinct que ça, c'est qu'en fait, ils déclarent tout simplement, c'est qu'en fait, l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur le bateau et que donc, il n'y a plus qu'à signer en fait le contrat. Autre document en bas, en fait, on a encore un autre bateau, par contre, avec un seul mât, et on voit en fait qu'on a une voile et un hunier. Et ça, on en verra tout à l'heure dans des iconographies de l'époque, parce que ce genre de gréement va perdurer très longtemps, même jusqu'au XVIIIe siècle. Vous l'avez précisé également, donc le nombre d'ancres, le nombre d'avirons, avec des palans. Autre document, là plutôt sur la construction navale, c'est en fait les radoubles, lorsqu'on va faire des réparations ou des améliorations et des modifications de navires. Là, en fait, ils vont s'intéresser davantage en fait, aux détails sur la charpente, hein, sur les cloisons. Détails sur le barreautage, ils précisent en fait l'espacement des barreaux, ils vont préciser donc les essences, là les planches de sapin pour border le tillac, le pont, préciser également donc si le navire était à cureau ou à cul carré, donc en fait commencer à avoir un détail sur le navire, préciser donc si on a des panneaux également sur le caillard d'arrière, juste comme ça. Un autre document plus important va préciser également des choses qu'on ne voit pas dans les contrats, comme par exemple la présence de sabords. Donc précisons le nombre de 6 sabords percés de chaque bord pour l'armement. Préciser également qu'on retrouvera donc un pont volant, donc un pont au-dessus donc, du pont supérieur pour protéger contre l'abordage. Là par contre, on a affaire à un bâtiment qui a été transformé en guerre. Et c'est un document donc, de 1620, donc certainement un bâtiment soit pour la protection ou même pour la course. À l'époque, donc, la Manche était une mer assez dangereuse et il est très probable que certains donc, pratiquaient la course, une mer plus ou moins licite, contre des bâtiments soit anglais et même français. Alors, autre source essentielle, donc, c'est toute l'iconographie. Et en Normandie, donc, nous avons la chance en fait, donc, d'avoir une richesse dans les graffitis de navires qui sont d'une remarquable précision et donc une très très bonne facture, de manière générale. De nombreux en fait, amateurs et historiens se sont intéressés aux graffitis dès les années 1950-60. Et notamment Henri Crinck a pratiqué de nombreux estampages de ces graffitis dans les églises, dans les maisons. Et tous ces estampages sont actuellement conservés dans la collection du musée de Dieppe, le château-musée de Dieppe. auquel donc, on peut avoir accès pour réanalyser ces documents. À l'époque, naturellement, donc, certains de ces graffitis ont été mal analysés. Et maintenant, avec les progrès dans l'archéologie navale, dans l'histoire maritime, donc, on peut revenir sur ces graffitis et les réanalyser de manière beaucoup plus précise, notamment en liaison avec l'analyse des contrats de construction, où l'on voit en fait la description des navires qui sont sur ces documents. Autre type d'étude, en fait, c'est une thèse qui avait été soutenue par Anne-Sophie Auger, sergent, en 1991, une thèse intitulée « Les graffitis marins de Normandie, XIIIe-XIXe siècle », thèse de doctorat donc, à Paris 1, sur les graffitis de la basse Seine. Donc, elle avait effectué plusieurs centaines de relevés et même des moulages en latex de certains de ces graffitis. Et a participé donc à de nombreuses expositions et a publié bon nombre de ces graffitis. Par contre, la thèse, elle, est accessible. On peut la consulter sans aucun problème. Mais elle n'a malheureusement pas publié non plus cette thèse. Donc là, on voit donc deux exemples en fait, donc, de type de navire que l'on trouve en Normandie au XVIIe siècle. Hein. Un bâtiment de commerce classique, un petit bâtiment. Peut-être une grande barque, d'ailleurs. Et à côté, en fait, un bâtiment de type flamand ou hollandais, probablement, en fait, une galiotte ou un E. Et également, donc, les associations qui sont également intéressées au graffiti. Donc, là, c'était également donc, l'association avec les amis du musée de Dieppe, avec qui je suis en contact, et qui ont fait de nombreux relevés dans la région de Dieppe, et notamment dans l'église Saint-Jacques. Et par contre, évidemment, ce ne sont pas des spécialistes donc, de la marine, d'où l'intérêt en fait, de travailler en collaboration avec ces associations pour faire donc, des interprétations correctes de chacun de ces graffitis. Certains ont par contre publié leur relevé, comme ici une association donc, d'Harfleur, qui a publié donc, tous les graffitis relevés sur l'église d'Harfleur. De nombreux graffitis du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi que donc des personnages et des textes. Donc là, en fait, on a une petite collection de bâtiments du XVIe siècle. Je vais vous montrer un petit peu la facture de ces graffitis qui sont également très bien détaillés, très, très intéressants. Et quand donc, cela ne suffit pas, donc, je vais également faire quelques relevés donc, plus ponctuels pour chercher en fait, des types de navires bien particuliers qui sont en association en fait, avec les recherches que je fais en Fleur. Et on voit ici donc, l'association qui peut être faite avec certains graffitis de navires, donc des navires à trois mâts du XVIe siècle, avec notamment l'exemple d'un contrat de construction retrouvé au Havre, hein, navire construit sur la rivière de Touques en 1589, où on voit en fait des bâtiments à deux ponts, donc qui font dans les 20 mètres de long, avec trois mâts, généralement, un guéhard d'arrière, un guéhard d'avant, et avec une petite dunette. Donc l'association en fait donc du contrat et des documents iconographiques permet en fait d'avoir une meilleure visualisation de ces navires, mieux comprendre en fait comment ces bâtiments étaient organisés et de l'allure qu'ils avaient. Donc voilà un petit peu donc un exemple un peu des différents types de navires que l'on retrouve à la fois sur en graffiti et sur les contrats. Donc on a tout d'abord donc des grandes barques là du début du XVIIe siècle certainement ou la fin du XVIe, donc gréées à trois mâts. On a ensuite donc des barques ou des grands bateaux avec donc une série en fait donc de hourdes donc pour la nage, avec également une mâture donc deux ou trois mâts, et ensuite des plus petits navires, un E probablement du XVIe siècle retrouvé sur le guise de Jumièges, et ici donc un bateau de pêche du XVIIIe siècle retrouvé sur l'église de Langrune-sur-Mer, avec à l'arrière donc peut-être un engin de pêche, on ne sait pas, mais avec cette mâture que l'on retrouve dans les contrats de vente, avec le matro, le grand mât avec son hunier et sa grand voile, et un foc à l'avant, avec sur un bout d'or. Donc des documents qui sont également très intéressants, ne serait-ce que pour l'étude de la voilure et de la mâture de ces bâtiments. Et autre source essentielle, notamment les sources archéologiques. En Normandie, malheureusement, nous n'avons pas retrouvé jusqu'à présent en fait, de bâtiments de ce type. Mais par contre, on peut se retrouver sur d'autres fouilles effectuée en Europe, mais également en Amérique du Nord. À gauche, en fait, on a une épave retrouvée au Danemark, l'épave d'un caboteur probablement d'origine hollandaise, qui a coulé vers le tout début du XVIIe siècle, bâtiment d'une vingtaine de mètres, qui peut s'apparenter aux grandes barques que l'on retrouve également dans les contrats notariés de Honfleur et du Havre. Donc des bâtiments avec un seul pont. On voit à l'arrière, la chambre arrière qui est encore conservée. Les égoutis, celle d'avant nous concernant en fait les câbles pour les ancres ou pour les voiles, et les deux au centre en fait pour la cargaison. Et également donc la voilure donc avec deux mâts avec et deux voiles tout simplement. Un matro à l'avant et une grande voile. Et à droite, une épave qui maintenant commence à être très bien connue par les spécialistes donc, de l'archéologie navale, c'est l'épave de Red Bay, fouillée par l'équipe de Parc Canada pendant une bonne dizaine d'années, les années 80, et qui est probablement en fait l'épave d'un baleinier basque, présumé être le San Juan, coulé donc au Labrador, à Red Bay, en 1565. Et donc en fait les aménagements, la mâture, les détails de la charpente et de la coque peuvent également être avantageusement comparés avec les détails que l'on trouve dans les contrats de construction et même comparés avec certaines iconographies. Celles-ci, par exemple, ont en fait des bâtiments qui ont des formes assez voisines par rapport à ce bâtiment. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est en fait proche de ces épaves, d'où l'intérêt en fait donc de comparer toutes ces sources disponibles, écrites, iconographiques et archéologiques, pour avoir une meilleure idée de ces bâtiments de mer et de commerce pour la fin 16e et le début du 17e siècle. Alors, tous ces contrats que nous décrivent en fait ces archives, pour l'instant, je n'ai trouvé que des navires construits à franc-bord. Hein. C'est des navires donc, où la membrure est remontée avant le bordé. Ensuite, donc, on en retrouve des présences de précintes et de fortes précintes tout au long de la coque jusqu'au plat-bord. Les navires sont soigneusement calfatés. Alors, la tradition à Klein, pourtant qui était si présente en Normandie et toute l'époque médiévale, on sait qu'elle recule à partir du milieu du 15e siècle aux dépens de celle à franc-bord, qui devient prédominante. Cette nouvelle méthode de construction se diffuse lentement dans toute l'Europe et permettra ensuite de construire des navires plus grands et mieux armés, essentiellement donc pour les marines royales. Toutefois, la construction à Klein ne disparaît pas en Normandie et semble se maintenir à la construction de navires plus petits, de pêche et de cabotage. Plusieurs graffitis en attestent, ainsi que donc que des détails de construction jusqu'au XXe siècle, début du XXe siècle. Ici, en fait, on a deux exemples de graffitis que j'ai pu retrouver, l'un dans l'abbaye de Fécamp, la Sainte Trinité à Fécamp, où l'on voit en fait un bâtiment assez important, bâtiment à trois mâts, assez voisin de ce que j'ai présenté précédemment, certainement une vingtaine de mètres, hein, mais entièrement construit à Klein. Et à côté, un navire certainement de cabotage, peut-être de pêche, gréé en fait à voile aurique. On voit à l'avant le Beaupré avec les phoques, à l'arrière le gouvernail, et on voit très bien les virures du Klein sur la coque. J'estime en fait ce graffiti donc, qui se trouve sur l'église de Trouville-la-Haule, probablement à la fin du XVIIIe siècle. Donc pour l'instant, c'est les seules attestations que j'ai pu retrouver en fait, de cette construction à Klein pour la période moderne. J'espère peut-être qu'en archive, on finira par en trouver. Ce qui semble étonnant, c'est qu'en fait, certains chantiers ne semblent pas construire à Klein, ou alors les contrats n'existent pas. Peut-être que ces constructions étaient le fait de certains chantiers qui étaient plutôt spécialisés dans ce type de construction. Cela, on n'en sait rien malheureusement. Ou plutôt, là, en fait, c'est des techniques que l'on retrouve essentiellement en Haute-Normandie. Donc là, c'est également les recherches dans les archives permettront peut-être d'en apprendre davantage. Peut-être essentiellement dans les archives donc, des Amirautés, où en fait, là, tous les navires étaient consignés. On a peut-être plus d'informations sur ce type de construction et voir comment cette construction a pu évoluer. Autre source iconographique, donc, en haut, le chevalet de Dieppe. Donc, dont on possède plusieurs manuscrits, trois manuscrits, l'une conservée au musée maritime de Tillou, une autre conservée au château musée de Dieppe, concernant en fait des corsaires d'Iépois, et la troisième conservée à la médiathèque de Dieppe, concernant en fait essentiellement la marine de guerre. Tous ces documents en fait datent du deuxième quart, troisième quart du XVIIIe siècle. En fait, on a les deux exemples en fait donc de manuscrits conservés au musée naval de Tatiou, donc de bâtiments de commerce fréquentant en fait la Manche et les ports normands. Autre document également qui présente des informations intéressantes, c'est un ouvrage qui a été publié en 1710, hein, recueil de vues de tous les différents bâtiments de la mer Méditerranée et de l'océan de Guéroux-Duppa, donc qui représente différents types de navires de guerre, de commerce, à la fois Atlantique, Manche et Méditerranée, et notamment plusieurs navires de pêche et de commerce normands. À gauche, un bateau qui sert donc pour la pêche et le commerce. Et ici, en fait, on a la première représentation d'un picoteux de la fin du XVIIe siècle. Et dont la première attestation que j'ai pu trouver en archive remonte à 1646. Autre document qui nous apporte d'informations également, c'est le traité général des pêches du Mail du Monceau. Donc, il était publié en 1769. Alors, bien qu'il soit donc beaucoup plus tard, beaucoup plus récent que les autres sources, il montre quand même des bâtiments qui ont des caractéristiques que l'on retrouve en fait déjà au début du Xe siècle, qui montrent déjà une tradition qui se continue. En fait, avec, je dirais presque avec Guillaume de Montsou, on est presque à la limite dans l'ethnologie navale, en fait, où il va présenter des navires, des vestiges, presque des fossiles vivants, en fait, d'une tradition qui est beaucoup plus ancienne par rapport au reste de la construction navale en France. On retrouve en fait les mêmes techniques. On a un clinquart notamment sur la gauche, un navire construit à clin avec des gréements tels qu'on les retrouve dans les contrats de vente du XVIIe siècle. Et en haut, une première représentation que je connaisse, un flambard à deux mâts. Bien que les flambards que j'ai pu étudier donc, aux archives de Honfleur, eux par contre ne sont dotés que d'un seul mât et d'une seule voile. Ce qui montre peut-être également une évolution par rapport à cette période. Donc, en vitesse, donc, là, un exemple d'autres sources, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer, c'est les archives donc, de l'amirauté d'Honfleur, notamment la série concernant en fait la déclaration de navire. Chaque propriétaire de navire devait déclarer le navire qu'il faisait construire ou qu'il avait acheté, en donnant les caractéristiques de son bâtiment. Et certains donnaient carrément un devis. Voilà, vous recopiez le devis, ce sera plus simple. Et en fait, on a donc dans ces archives des contrats de construction qui sont reproduits et qui nous apportent des informations très intéressantes également sur la construction navale. Mais en plus, l'avantage que l'on a, c'est qu'en fait, on a le nom du navire, ce qui permet donc de se référer à une autre source et de faire un recoupement avec une autre source, notamment la source donc des rapports de mer. En fait, on peut recouper à la fois le navire décrit dans le rapport de mer et la description du navire pour mieux comprendre si certains bâtiments étaient affrété pour des routes commerciales particulières ou pour des cargaisons particulières, ou tout simplement c'est des bateaux qui transportaient un peu de tout pour différents ports. Alors pour bien comprendre et comment analyser tous ces documents, donc je suis en cours de réalisation en fait une base de données sur Access, donc avec trois tables, une table concernant donc les notaires, donc avec la référence des contrats, les noms de l'étude, les noms des notaires et les dates des contrats. Une autre table concernant en fait donc les contractants, hein, les différentes parties en présence, pour savoir un petit peu, donc, voir si on trouve des noms récurrents, pour voir un petit peu quel type de contractant va construire ou acheter tel type de navire. Donc on a les noms des métiers également, la qualité, c'est un bourgeois ou pas bourgeois, la ville, et puis la paroisse. Parfois, en fait, on précise Honfleur, paroisse Sainte-Catherine ou paroisse Saint-Léonard, par exemple. Et la plus importante, naturellement, c'est la table concernant le navire lui-même, où en fait on a toutes les informations techniques qui sont précises dans les contrats, qui sont reportées dans cette base de données. Et je pense que jusqu'à la fin du XIXe siècle, on va peut-être pouvoir en fait avoir une base de données intéressante qui permettra d'exploiter plus sérieusement en fait toutes ces sources et comprendre beaucoup plus facilement la typologie de ces navires et leur évolution dans le temps. Et de voir également le lien qui peut exister entre les différents contractants, les différents constructeurs, voir si certains construisent plutôt tel type de navire ou tel autre, et voir si dans tel chantier ou tel autre chantier, parce qu'on a également les lieux des chantiers, on peut voir si on a des spécialisations qui se produisent ou pas. Cela, pour l'instant, donc, n'avait jamais été fait, donc c'est, je dirais, une première au CRHQ. Alors, en conclusion, je dirais en fait que contrairement à la marine royale, sa petite marine de commerce est peu connue. Le dépouillement des archives notariées et de l'amirauté associées à l'étude de différentes sources iconographiques devrait nous permettre de mieux comprendre cette marine et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. Ces contrats ouvrent également d'autres pistes de recherche dans le domaine de l'histoire économique, ces navires étant des instruments du commerce maritime d'une région. D'autre part, la construction navale constitue en elle-même une activité économique non négligeable, enrichissant les charpentiers dont certains appartenaient à la bourgeoisie honfleuraise. Certains contrats indiquent également les liens existants entre des ventiers de la forêt de Touques et des constructeurs d'Honfleuré pour l'approvisionnement en bois de leurs chantiers. Des recherches pourraient également être entreprises dans le cadre de l'histoire rurale afin de mieux comprendre comment ces forêts étaient gérées et exploitées en tant que ressources en bois essentielles dans des chantiers de construction navale privée. Les lieux de construction, souvent systématiquement mentionnés dans ces contrats, leur intégration dans le tissu urbain ainsi que les choix d'implantation de ces chantiers pourraient être étudiés en liaison avec des recherches menées sur les ports et aussi en liaison avec l'archéologie, permettant de mettre à jour et étudier de nouveaux sites prometteurs. Et je conclurai en paraphrasant un archéologue bien connu que certains reconnaîtront, Hein, c'est que malgré ces nombreux progrès obtenus ces dernières années dans le domaine de la recherche en archéologie navale et en histoire maritime, bien des interrogations demeurent.